Tu es ce voyant que la vie dévisage, les bras chargés d'amis que valoppe la mort. Et tu sais aujourd'hui qu'elle t'envisage ici, t'excluant pour longtemps de l'ardeur des voyages. Tu n'es plus l'abonné des longues traversées, sous chaque lune gagnée qui te devine, un chien t'oblige encore à gravir les collines. Un chien t'oblige encore à gravir les collines, quand le corps souvent met le corps en sourdine. Tu ne peux éviter que le cœur dérime, le temps te ramène valise de laisser, les heures dévastées, les fanfares perdues. Un fils venu du nord, tu n'en es pas revenu. Des passants traversés en renversant les rues. Des passants traversés en renversant les rues. Une fausse amitié prise en pleine lumière. Quel poète n'est pas éveillé solitaire, bravant les jours de bave et de déconvenus, posant sur la balance silence retenu. Quel vivant n'est jamais de la vie descendu, refusant de rester trop lourdement à terre, refusant de rester trop lourdement à terre, quand misère la misère crible le vocabulaire, quand la mer s'agenouille prière, quand dans les rues les yeux ignorent ceux qui jour et nuit, nuit et jour sont au bord, du bord blessé, couché sur les trottoirs. Eux pour qui l'humain est inhumain, l'ami noir. Eux pour qui l'humain est inhumain, l'ami noir. Eux qui sont l'humain échaudé, pris dans le noir, l'humain érodé, suffoqué, n'osant plus croire que l'attend une porte demeurée ouverte, un arbre qui parlait, une écharpe d'herbe verte, une plage non souillée, une eau franche à boire. Et aux murs qui s'effondrent des soleils sous la pluie. Et aux murs qui s'effondrent des soleils sous la nuit. Une étoile disant l'eau des matins relevés, révélée effaçant les faux plis de l'histoire. Regardez-les mourir, ceux qui courent pour parler. Leur langage, ils assignent au feu les branches mortes. Ils ont peu de soucis de ce que le vent emporte. Ils ne se courbent plus, ils rêvent pire, ils aiment. Ils rêvent pire, ils aiment, ils ne se courbent plus. Avant-hier, tu les as reconnus. Paupières scellées, tu t'en es souvenu. Tu crois, tu dis, on voit plus loin, les yeux fermés. Tu restes ce voyeur que la vie dévisage. Et tu sais aujourd'hui qu'elle ici t'envisage. qu'elle te protège encore du faux semblant des mages.
Et oui, une fois n'est pas coutume, pour la dernière de l'année, la Route Inconnue vous offre un récital Guy Alix, car je suis certain que vous êtes nombreux à avoir reconnu la voix de ce poète de grand renom, auteur d'une œuvre exigeante dont on peut parier qu'elle restera. Guy, bonjour.
Bonjour.
Alors, Bonjour. On serait tenté de dire que la chanson est votre deuxième passion après la poésie, mais à bien y regarder et surtout à bien y écouter, on est obligé de constater que pour Guy Alix, parfois, eh bien, poésie et chanson ne font qu'un. Par exemple, lorsque vous mettez en musique des poèmes d'Angèle Vanier, nous en écouterons un tout à l'heure. Alors Guy, première question, la chanson est-elle un art mineur par rapport à la poésie ou doit-on les mettre sur le même plan, du moins quand la chanson est au sommet de sa forme?
Alors, très simplement, moi je vais revenir à mes débuts, voilà, mes débuts de petit poète. Mes débuts de petit poète et mes maîtres, voilà. Mes maîtres s'appelaient Brassens, surtout Brassens d'ailleurs, Brel et Ferré et d'autres. Et donc, ce sont les chanteurs qui m'ont amené sur les chemins de la poésie. Pour moi, de toute façon, à l'origine, il y avait la voix. Les premiers poèmes n'ont pas été écrits, ils ont été sûrement parlés, ils ont été dits, et ils ont peut-être été chantés. Voilà. Il y a aujourd'hui, souvent, pour beaucoup de gens, et pour beaucoup de poètes d'ailleurs, qui sont parfois très très condescendants vis-à-vis de la chanson, il y a une espèce de hiatus entre la poésie et la chanson. Je pense que c'est un phénomène relativement récent. Au Moyen-Âge encore, les poèmes étaient chantés, voilà. Au XIXe siècle encore, souvent, ils étaient chantés. Donc, il n'y a pas de dissociation à faire entre les deux. Bien sûr, je distinguerai quand même entre la chanson et la chansonnette, allez, j'ose le dire. Sheila n'est pas Brassens. Il y a des distinctions à faire. Mais je pense par exemple à un poème que je lis qui est absolument merveilleux, qui s'appelle Le Blason de Georges Brassens, qui est un sublime hommage au corps de la femme et au sexe de la femme. Je ne le chante pas, je le lis, et quand je le lis devant un public souvent averti, les gens ne reconnaissent pas une chanson. Ils ont bien devant eux un poème, et très souvent d'ailleurs ils me disent « Ah bah oui, c'est un blason du XVIe siècle, ah bah oui ». Alors une facture très classique, hein, pas une facture moderne, mais c'est véritablement un poème, et qui se dit d'ailleurs très bien. Donc voilà, il n'y a pas de distinction, de dissociation à faire entre les deux. Il y a sûrement des étages, mais on sait qu'il y a différentes formes de poésie aussi. Ouais. Il y a différentes formes de chansons, mais il y a une chanson à texte qui est très, très exigeante. La mémoire et la mère de Léo Ferré, c'est un poème absolument sublime. Bon, pour citer un exemple parmi d'autres.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de constater, vous m'avez dit qu'un de vos maîtres était Brassens, pour autant, votre poésie ne ressemble pas du tout à la chanson, votre poésie à vous, à Guy Alix.
Non, mais j'ai voulu au départ, oui. Je vais être très très immodeste, j'ai voulu au départ être Brassens, comme j'avais voulu plutôt être Jacques Anquetil en vélo, et bon, mes maîtres étaient, disons que j'avais beaucoup beaucoup d'ambition, voilà. Et donc j'ai commencé à écrire des petites choses qui voulaient se mettre en musique, etc., qui étaient vraiment très 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 mauvaises, j'étais très très loin de mes maîtres, et donc... mon écriture a changé et puis j'ai rencontré les poètes surréalistes, j'ai rencontré Follin, une foultitude de textes différents qui n'étaient pas des chansons et donc j'ai écrit différemment. Et j'ai d'ailleurs pendant très très longtemps refusé même de lire mes textes en public, je lisais très très peu et c'est quelque chose qui m'est venu il y a 8 ou 9 ans, cette passion pour la lecture, pour le dire le texte. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une évolution.
Oui. Votre poésie, donc, nous l'aimons ici sur La Route Inconnue, nous l'avons lu à maintes reprises. Votre poésie est exigeante, elle est âpre, elle refuse le lyrisme. C'est une poésie qui, j'ose le dire, ne cherche pas à plaire, à flatter l'oreille, à se faire aimer. C'est tout le contraire de la bonne chanson verlainienne, hein, finalement. Mais vous continuez de chanter et de chanter des textes qui sont très différents de votre poésie. C'est un double besoin.
Bah, c'est un petit peu besoin. La même chose que en poésie, hein. Je peux aimer des textes et des auteurs très très différents de ce que je fais moi. Voilà, j'aime beaucoup la différence. Pour citer un exemple que vous connaissez bien, j'apprécie beaucoup la poésie de Jean-Claude Touzeil, par exemple, qui a une veine absolument différente de la mienne, qui est dans l'humour, alors que moi je suis dans une poésie âpre, effectivement, noire le plus souvent, mais voilà, j'apprécie des choses très très différentes. J'appréciais Jean Anselme aussi énormément. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a place pour tout le monde à partir d'une certaine exigence. Et il peut y avoir des exigences dans des tonalités tout à fait différentes. Donc voilà, je chante des chansons qui sont très très différentes de ce que je fais, de mon écriture, qui est très noire, mais je prends beaucoup de plaisir aussi à chanter ces chansons.
Alors, lorsque vous étiez adolescent, on a compris que vous écoutiez Brassens, Brel et les grands, est-ce que vous écoutiez aussi les Rolling Stones par exemple ?
Alors là, j'avoue que j'ai des manques énormes. Non, alors je suis soit musique classique, j'aime beaucoup la musique classique, soit, je l'avoue très simplement, chanson française. Alors il peut arriver que des groupes anglo-saxons me bercent l'oreille, mais bon, disons que je ne connais pas bien. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, je ne fréquentais pas les boîtes de nuit, etc. Je fréquentais les fest-noz bretons. Tiens, c'est complètement différent. Et voilà, c'est vrai que la musique anglo-saxonne, j'aime bien Dylan. J'aime beaucoup Leonard Cohen. Beaucoup Leonard Cohen, qui était vraiment pour moi un très très grand poète aussi. Donc je ne refuse pas toute la chanson anglo-saxonne, moi s'en faut. Ouais. Mais c'est vrai que la musique rock aussi, ne m'attire pas toujours. Ouais. Allez, on va dire ça comme ça.
Guy, vous nous avez parlé de la Bretagne et des fest-noz. On va écouter De ma vie d'Angèle Vanier, qui était bretonne. Et on se retrouve pour parler de cette poétesse qui vous tient tellement à cœur.
De ma vie, je n'ai jamais vu plus beau visage que sa voix. Ses yeux portent la main des eaux, blessés à mort depuis des siècles par le silence des grands bois, par le silence des grands bois. Son front descend de la lumière comme l'Égypte du mystère. Et sa bouche a juste le poids terrible du bonheur que pouvait supporter mon cœur, que pouvait supporter mon cœur. De ma vie, je n'ai jamais vu plus beau visage que sa voix. Ses yeux portent la main des eaux, blessés à mort depuis des siècles. S'il avait fait glisser sa voix dans les yeux graves de mes pommes, nous aurions vu ce vieux royaume que l'amour est belle tout bas. C'est ici qu'il faut parler d'elle, la maison des oiseaux parfaits, la merveille où toutes les ailes peuvent s'ouvrir sur leur secret. De ma vie, je n'ai jamais vu plus beau visage que sa voix. Ses yeux portent l'âme des eaux, blessée à mort depuis des siècles. J'entends sonner la cloche rouge, j'entends sonner la cloche rouge de ce rouge extraordinaire dont l'ombre saigne sur la terre. La cloche a marié les dieux, le fruit qu'on mange avec les yeux. Il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'amour heureux. De ma vie, je n'ai jamais vu plus beau visage que sa voix. Plus beau visage mis à nu par le silence de mes doigts, par le silence de mes doigts, par le silence de mes doigts.
Voilà, nous venons d'écouter « De ma vie » d'Angèle Vanier par Guy Alix. C'est un vrai bonheur pour vous de chanter Angèle Vanier. Je sais que c'est quelqu'un qu'on ne lit plus guère aujourd'hui. Hein, et c'est aussi pour éviter que son nom ne tombe dans l'oubli que vous la chantez.
Ben, écoutez, alors Angèle aurait 100 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'ai raté, je regrette de l'avoir raté. Je prépare là un essai qui doit paraître au printemps aux éditions Unicité sur Angèle Vanier, c'est que j'écris en résidence d'écriture. Et donc, j'ai, disons, beaucoup travaillé depuis 2 ans sur sa poésie, qui a eu une évolution importante, mais qui n'a pas connu de révolution comme on l'a cru à partir d'un recueil. C'est une poésie très très exigeante aussi, très très âpre aussi, qui peut être très noire aussi, en même temps très amoureuse. Et je crois que ce sont des choses qui m'attirent naturellement chez elle, au vu de ma poésie elle-même. Et c'est une poésie, il ne faut pas l'oublier, qui a été chantée au départ, beaucoup chantée, hein, qui a été chantée par Piaf, qui a été chantée par Catherine Sauvage. Le Chevalier de Paris a été traduit, adapté, on va dire, en anglais. Le Chevalier de Paris a été chanté par Marlène Dietrich, par Yves Montand, etc. D'autres chansons aussi, d'autres textes d'Angèle Vanier ont été portés en chansons. Et donc, il y a ce lien-là. Et parallèlement à mon travail critique, à mon travail d'essayiste sur Angèle Vanier, j'ai tenu à mettre au point un récital que j'ai produit 2 ou 3 fois avec l'aide d'un musicien, Gaëtan Louvel. Et j'ai voulu mettre ce texte en musique, ce texte qui est vraiment sublime, qui est très très beau, qui est un texte de début de l'écriture d'Angèle Vanier pour un recueil qui a été préfacé par Paul Éluard. Et ce texte, je l'ai légèrement adapté. Voilà. Parfois, il faut adapter un tout petit peu le texte, mais sans changer les mots, de façon à avoir une structure avec couplet et refrain, par exemple. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à l'adapter, à le chanter. C'est un texte absolument sublime sur l'amour, et sur l'amour donc d'une femme qui était aveugle. Voilà. hein, et on sent bien sûr cette cécité dans ce qu'elle dit là. C'est vraiment quelque chose de sublime, et c'est vrai que là actuellement j'ai envie de, je le fais depuis peu de temps en fait, hein, j'ai envie de mettre en musique moi-même un certain nombre de textes de poètes. Je l'ai fait avec Gérard Cléry, je l'ai fait avec Angèle Vanier, je l'ai fait avec Catherine Jarrette, je viens de faire avec Gérard Mottet, et j'ai envie de faire ça, tout en n'étant pas un véritable musicien, je l'avoue.
Oui. Enfin, vous jouez, vous interprétez à la guitare. Est-ce que c'est difficile de mettre en musique un poème qui a déjà sa propre musique, finalement, son propre rythme ?
Oui, c'est pas forcément évident. Il m'est arrivé de reprendre à plusieurs fois. C'est-à-dire que déjà il y a des petites choses très très simples musicalement et que moi-même qui suis un peu béotien, je maîtrise. Savoir si on peut partir en mineur ou en majeur, par exemple, selon la tonalité des textes. Et puis après, naturellement, quand on a joué pas mal de guitare, pour moi c'est la guitare naturellement que j'ai prise comme instrument pour suivre mon maître il y a 45 ans de ça. Et donc, je connais des séries d'accords, des grilles d'accords qui sont, disons, harmonieuses plutôt, et qui me permettent de trouver des mélodies qui me semblent s'adapter à la musique. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, De ma vie d'Angèle Vanier a déjà été mis plusieurs fois en musique. Mais ce n'est pas simple, et puis je pense qu'il peut y avoir naturellement d'autres mélodies, d'autres reprises, et voilà, on essaie de faire quelque chose qui colle avec sa propre sensibilité, naturellement. Je le dis humblement, je ne suis pas musicien, j'ai une formation musicale basique, je suis autodidacte à la guitare. Enfin, disons que mes profs ont été mes copains il y a ça pas mal d'années. Et puis voilà. Mais c'est difficile, c'est particulièrement difficile. Il y a de grands maîtres qui ont parfaitement réussi. Bon, là, je reviens encore à Ferré et Brassens. Brel ne l'a jamais fait, ça. Mais Ferré et Brassens ont fait des choses absolument magnifiques sur les textes de poètes. Et c'est vrai qu'en dehors de leurs œuvres, ils ont porté aussi des poètes, beaucoup de poètes, tous les deux, et des poètes que beaucoup de jeunes gens comme moi, qui n'avaient pas eu accès à la poésie, ont découvert grâce à eux.
Oui, il fut un temps où les chanteurs...
Ferrat, par exemple.
Il fut un temps où les chanteurs interprétaient les poètes. Il y a de très beaux disques d'ailleurs qui existent, qu'on peut toujours se procurer notamment dans les médiathèques, qui permettent d'entendre des textes super, bien évidemment. Alors, un autre versant de votre art, c'est la poésie pour enfants. Vous avez publié plusieurs recueils pour les enfants, notamment les poèmes pour Robinson chez Soc et Foc, dont j'extrais ce papy que vous avez mis en musique et que nous allons écouter tout à fait cessante.
J'étais petit, j'avais pas de papa. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Mais moi je rêvais d'un papy. Mes copains parlaient souvent d'un grand papa rien que pour eux. D'un grand papa rien que pour eux. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Mais moi je rêvais d'un papy. Un grand papa plein d'amour, d'un grand papa rien que pour moi, d'un grand papa rien que pour moi. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Mais moi je rêvais d'un papy, d'un grand papa plein de rire, et qui partagerait mes secrets, et qui partagerait mes secrets. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Mais moi je rêvais d'un papy, un grand papa plein de mots, et qui nous chanterait notre histoire, et qui nous chanterait notre histoire. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Mais moi je rêvais d'un papy, un grand papa plein de rêves, et qui m'emmènerait sur la mer, et qui m'enlèverait vers son île. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Quand j'étais petit, j'avais pas de papa. Un papy, c'était pour moi comme une île lointaine. Et aujourd'hui, cette île, c'est toi. Et aujourd'hui, cette île, c'est toi. Quand j'étais petit, j'avais pas de papy. Quand j'étais petit, j'avais pas de papy. Quand j'étais petit, j'avais pas de papy. Quand j'étais petit, j'avais pas de papy.
Voilà, c'était Le Papy de Guy Alix, mis en musique et chanté par Guy Alix. Vous aimez écrire pour les enfants également. C'est une marque... Pourquoi les enfants, oui?
Alors, pourquoi les enfants? C'est compliqué. Alors, tout d'abord, pendant très très longtemps, j'ai refusé d'écrire pour les enfants. Voilà. Je me rappelle même des éditions Motus. Mon ami François David m'avait demandé un texte, c'était au tout début des éditions Motus, pour les enfants, et je lui ai dit mais François, je suis incapable d'écrire pour les enfants. Et la première fois que j'écris pour les enfants, c'est un très très beau souvenir, et un souvenir qui, malgré tout, est douloureux aussi. C'est mon fils, à qui je lisais des livres tous les soirs, des histoires tous les soirs, qui m'a demandé un jour de lui inventer une histoire, et je reprends ces mots qui sortent de ma tête. Et je me suis retrouvé un petit peu bête, je l'avoue, et puis là je pouvais refuser à un éditeur ami, mais pas à mon fils. Et donc j'ai pris une petite luciole qui était sur sa table de nuit, qui s'appelait Le Petit Peintre, et je lui ai inventé une première histoire. Le lendemain, je me suis dit, tiens, je vais saisir ça, etc. Je lui ai raconté cette histoire de suite. Et j'ai publié une de ces histoires qui s'appelle Le Petit Peintre et la Vague. Et je vais en publier une autre qui s'appelle Les Couleurs du Petit Peintre au printemps. Et donc j'ai commencé par des histoires, des contes pour enfants, un peu merveilleux, autour de la thématique de l'art, avec ce personnage central du petit peintre. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un peu pour les enfants. J'avoue que depuis cette expérience, qui était vraiment une expérience de vie, je n'ai pas écrit d'autres contes pour enfants. Pour ce qui concerne « Poème pour Robinson », c'est une expérience douloureuse, là. J'ai appris en 2008 que mon petit-fils était né, et suite à un divorce qui était très très compliqué, divorce kafkaïen pour tout dire, je n'ai plus de nouvelles de mes enfants. Je n'en dis pas plus. Et j'ai appris en 2008 qu'un petit-fils était né qui s'appelait Robinson. Je ne l'ai jamais vu depuis. Il a 9 ans aujourd'hui, c'était le 3 mars 2008, enfin je l'ai appris une quinzaine de jours après. Et je dirais que pour tenir le coup, d'autant que j'étais dans une dépression à l'époque, j'ai commencé à lui écrire des poèmes qui étaient des espèces de petites lettres, dans une tonalité naturellement très très différente de ce que j'écris habituellement. Oui. Et avec des mots très simples, j'essayais de simplement parler à un enfant. Voilà. Ce que je peux dire simplement aussi sur l'écriture pour enfants et sur l'écriture de la poésie pour enfants, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. C'est une écriture très exigeante. Oui. Voilà, qui peut être simple, mais qui est très exigeante. Michel Tournier le disait lui-même, il est plus difficile d'écrire pour les enfants que pour les adultes. C'est vraiment une exigence très forte, et il faut se méfier de petites sensibleries, des petites choses un petit peu ridicules qu'on peut écrire pour les enfants en croyant qu'on écrit pour eux. Les enfants ont besoin de quelque chose d'exigeant qui peut être simple naturellement. Il ne faut pas employer trop de grands mots, c'est clair. Et là aussi, c'est quelque chose qui réclame un travail, mais ça doit être exigeant. Voilà, ne pas écrire une poésie mièvre pour les enfants. je crois que ça, c'est très très important, effectivement. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, je ne sais pas si j'y arrive. Voilà, ça c'est autre chose. Hein. Simplement, c'est vrai.
Je crois que ceux qui vous ont entendu, qui nous ont entendu, je pense, savent que vous y arrivez.
Alors oui, simplement un mot sur cette chanson. Hein. Comme vous avez pu le voir, ouais. Christophe, elle ne reprend pas exactement le texte. Elle est partie d'un des textes de poème pour Robinson. Elle a été adaptée par moi et ma compagne de l'époque qui m'a beaucoup aidé pour écrire cette petite chanson. J'ai trouvé la musique assez facilement, je l'avoue. Et puis après, bah voilà, il a fallu faire autre chose à partir de ces quelques vers. C'est un poème très très court et on a développé hein, de façon à avoir une structure refrain et couplet.
Ouais. Il nous reste deux petites minutes. Je voudrais qu'on termine ce récital Gialix par un texte magnifique, La prière du mécréant, que précède d'ailleurs une citation de Xavier Graal, qui lui était croyant. Pourquoi avoir choisi Xavier Graal ?
Ben, j'ai travaillé un peu sur Xavier Graal. Hein. Je ne suis pas un grand connaisseur de Graal, mais j'ai travaillé un petit peu sur Xavier Graal il y a quelques années pour un ouvrage un petit peu anthologique qui devait paraître aux éditions Raphaël de Surtis, qui est paru d'ailleurs. Bon, j'avais lu l'œuvre poétique complète de Graal chez mon éditeur Rougerie. C'est une poésie qui est effectivement très très habitée aussi, très exigeante, très âpre. Et simplement, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai trouvé que ces deux vers qui me parlent beaucoup convenaient bien en introduction de la prière du mécréant.
Voilà. Pourquoi avoir voulu écrire et dire cette prière du mécréant ? Parce que quand je vous écoute, je ne trouve pas si mécréant que ça, quoi, finalement.
Je sais pas. D'ailleurs, le mécréant, d'une certaine façon, est impropre là, mais je garde le mot quand même. Bon, disons très très simplement que je suis agnostique. Alors, un agnostique très respectueux, un agnostique d'ailleurs qui lit la Bible, un agnostique qui est fasciné par les évangiles. Je lis beaucoup les évangiles et c'est une très très belle parole. C'est une parole poétique aussi et une parole importante, mais je ne sais pas. Voilà, je suis agnostique au sens le plus simple du terme. Je ne sais pas. Peut-être que, pour l'instant, je n'ai pas la foi. Je l'ai eu la foi, mais je ne l'ai pas et je ne l'ai plus. Mais en même temps, je respecte. Je peux respecter la religion. Je peux respecter les religions, si tant est que leur prosélytisme n'est pas trop violent. Voilà.
En tout cas, on va s'apercevoir que il y a des prières de mécréants qui sont plus belles que les prières de certains croyants. C'est le cas de votre texte absolument magnifique. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter maintenant. Guy, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de votre temps. Et puis, je précise que, évidemment, vos textes, et vos chansons, on peut les découvrir sur votre chaîne YouTube, hein, qui existe depuis déjà plusieurs mois.
Depuis 4 ans, existe, mais disons qu'elle prend beaucoup d'essor depuis 2 ou 3 mois, en fait. Ouais. Voilà.
Donc, il suffit de taper YouTube Gialix, comme je l'ai fait, et on tombe assez facilement sur vos chansons. Et on peut peut-être aussi vous découvrir sur scène prochainement. Est-ce qu'on peut donner un rendez-vous à nos auditeurs ?
Alors, bien récital Angèle Vanier à Quimper, ça doit être début mars. Oui. C'est dans la maison de Max Jacob, à Quimper, dans la maison natale de Max Jacob. Ce sont des rendez-vous de Max ou chez Max. Ce sera le 3 mars. Après, j'ai d'autres récitals, mais je ne peux pas donner de date précise. Je dois intervenir notamment au Havre, voilà. Mais bon, j'ai pas énormément de dates à donner pour l'instant. Bon, prenons rendez-vous déjà chez Max, pour Angèle Vanier, dont on a parlé tout à l'heure. Ça me semble particulièrement important. Donc, j'invite tous les amateurs de poésie en Bretagne. Voilà, bon, la salle sera vraiment pleine à venir assister à mon petit récital sur Angèle Vanier. Alors, il y aura 7 chansons et sinon, ce sera des lectures de poèmes.
Très bien. Guy, un grand merci. On écoute la prière du mécréant.
Ne me parlez pas de moi. Sur ma tête, posez une pierre d'argile blanche et parlez-moi de la terre. Parlez-moi de la terre. Mon Dieu, je viens à toi le pied enflé de terre, le pied terre déjà. Moi qui ne t'ai jamais su, moi qui n'ai jusqu'alors jamais su me faire à l'idée de toi, je viens ce soir vers ton silence. Je ne suis que le peu, et je suis si seul. Je t'ai nommé, je t'ai créé à mon image. Je viens à toi démuni, les mains vides et le cœur fatigué. Toute ma vie, mon Dieu, j'ai lâché l'ombre pour la proie. Toute ma vie, j'ai couru comme un fou au lointain vers ce rêve qui était à ma porte. Trop longtemps aussi, j'ai attendu. Je ne priais pas, mais j'étais à genoux, au plus loin de moi-même, anéanti sous le joug. Trop longtemps, j'avoue que je n'ai pas vécu. Oui, toute ma vie, j'ai gâché ta vie. Même si je me suis battu parfois comme un beau diable, mon Dieu, pour accroître le temps encore et malgré tout. Et toute ma vie, j'ose le dire, j'étais un homme sans Dieu, sans cette orgueilleuse certitude de ton nom sur l'existence. Mais j'avoue aussi que j'ai aimé tes pauvres créatures, comme un fou, comme un homme, comme un dieu même, mon Dieu, même si cela ne me fut pas toujours rendu, loin s'en faut. J'aimais jusqu'à perdre haleine, jusqu'à perdre vie, j'aimais humblement, parfois, jusqu'à l'orgueil d'écrire. Oui, je t'assure que j'ai pu brûler aussi, et cela me suffit, et me donne encore ce courage de marcher vers toi aujourd'hui, à l'heure où je n'ai plus trop de jours, plus trop de voix, où j'ai besoin de ton nom comme d'un rêve ultime. Je ne te donnerai presque rien, un simple caillou dans la paume d'un enfant. Quelques mots, un poème, cette prière, comme un dernier souffle jeté sur ma cendre. Mais je ne te demande pas la lune non plus, et tu ne le sais que trop. L'éternité serait un fardeau bien lourd pour mes épaules de pauvre pécheur. Oh oui, l'éternité serait un fardeau bien lourd pour mes épaules de pauvre pécheur. Non, mon Dieu, donne-moi juste encore un peu de temps pour survivre, un peu de temps pour aimer, un peu de temps pour la révolte. Donne-moi juste encore, mon Dieu, un peu de temps pour mourir. Donne-moi juste encore, mon Dieu, un peu de temps pour mourir.
C'était la magnifique prière du mécréant de Guy Alix. Je vous signale que la première chanson par laquelle nous avons ouvert cette édition de La Route Inconnue s'intitule Les Longues Traversées. Il s'agit d'un poème de Gérard Cléry, mis en musique et chanté par Guy Alix, Guy qui souhaitait que cette émission fût dédiée à notre ami à tous, le grand chanteur et poète Jacques Bertin. Voilà, je vous propose d'écouter à présent la chronique de notre ami Patrick Jokel.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre édité par Sock et Foc, un livre de Chantal Couliou, Le temps en miettes. C'est un des meilleurs livres de poèmes que j'ai lu cette année. Il y en a quelques-uns, mais celui-ci mérite vraiment le déplacement. La poésie, dit souvent Alain Frex, c'est une affaire de perte. Le temps qui passe signe toutes nos pertes. Et c'est de cela dont s'empare ce livre de Chantal Couliou. Un livre à plusieurs voix, celle d'une grand-mère qui se voit vieillir, celle de l'enfant qui la voit vieillir, qui se rend compte plus ou moins que lui aussi vieillit, et celle du petit enfant qui n'a que le bonheur encore pour horizon, un horizon dont il est le centre et le soleil. Et quand il devient impossible de colmater les brèches, eh bien on démantèle la perte avec toutes ses étapes jusqu'à la mémoire enfuie. Pas de pathos, juste de la tendresse, de la justesse, un livre plein de gravité et finalement très paisible. Quelques extraits. Le corps, bâillonné par les rhumatismes, tu essaies de traduire tes oublis et de retrouver la trace des années envolées. Se mettre à genoux devant le défilé des années, rester là, silencieuse face aux saisons fanées, avec les questions de toute une vie, sans réponse. Sauter à pieds joints dans la mélancolie des années qui fâchent. Fini de jouer avec l'insouciance, le pas incertain, le déroulé des jours. Il est dit de bouche à oreille que la vie n'est pas éternelle et qu'un jour, il faut se résigner à tout quitter. Le tracé des jours se perd dans les méandres de l'inconnu. Les pas discordants du vent engomment de plus en plus les lignes directrices. Donc c'est Chantal Couliou, Le temps en miettes, aux éditions Soc et Foc. À bientôt.
I roll all night long, rolling and rolling. I roll all night long. I didn't have no money, but I'm long gone, gone, gone. I'm gone. I'm gone, I'm long, long talking about I'm gone, baby, I'm long gone.
Le grand Lightning Hopkins. Je vous propose à présent de rejoindre notre ami Claude Verset, poète, mais également chroniqueur dans la revue des charges, notre partenaire, et je ne manque jamais une occasion de le rappeler, Nous sommes fiers d'être le partenaire de cette revue qui compte aujourd'hui dans le paysage poétique français, et ce depuis déjà fort longtemps. Claude Verset qui nous revient donc avec un petit coup de cœur, comme chaque mois. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve donc très prochainement, dans 15 jours, pour une nouvelle édition de La Route Inconnue. À bientôt.
Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Christophe. Il y a toujours quelque chose de fascinant, de vertigineux dans les commencements, ou dans un recommencement. C'est à quoi nous invite le poète Yann Miralles dans son dernier livre « Des terrains vagues, variations » aux éditions Une, et où le lecteur est associé à la progression du livre, de son écriture, depuis la cellule originelle, la cellule la plus simple, à partir de laquelle la suite de poèmes se construit selon le procédé de composition musicale du thème et variation, comme annoncé par le titre de l'ouvrage « Des terrains vagues, variations ». Il s'agit au fond de réinventer une poésie à partir de rien, ou d'un presque rien. Un terrain vague, deux silhouettes qui marchent, et l'on va suivre dès lors l'évolution du texte en une épopée non nulle. Là, je cite. Ainsi, dans un des premiers poèmes, ils vont, ils marchent. Ils sont marchands côte à côte. C'est comme s'ils ne cesseront plus de marcher, d'être, dans l'entrain de, d'être ainsi, incoatif, dans le travail en progrès du poème. Dès lors, au fur et à mesure de l'avancement de la marche qui se confond avec celui du poème, le décor se précise, va sans cesse modifiant. Bientôt s'impose au fond barre de bâtiments avec beaucoup de gens dedans. Et l'on n'est pas alors aussi perdu qu'on croyait, mais sur une ancienne route entre Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Ou encore, les aspérités et les trous du terrain, dans la nuit qui tombe et dans le film, sont prétexte à trancher, à skatepark improvisé, à rampe de lancement, à tutoiement d'étoiles pour les teenagers qui s'ébrouent autour des deux frères. Au détour d'un verre, ce qu'on soupçonnait est clairement affirmé. Le terrain vague est tout entière la vie qui, comme eux, passe. Ce qui nous entraîne est aussi le phrasé de la langue d'Yann Miralles, une maîtrise dans l'art de rompre le verre, qui rend compte de la respiration, du rythme d'une oralité. Et l'avantage du vague du terrain initial est de pouvoir y projeter, avec de plus en plus d'acuité, des souvenirs personnels, de faire ressurgir ces paysages qu'on porte et qu'on ne savait pas qu'on portait, venus de l'enfance et de l'adolescence, mais aussi des images issues de films anciens. Le Christ de Pasolini passe de droite à gauche dans le champ. Ou de celui, je parle du film, que le poète se donne l'impression de tourner plutôt que d'écrire un poème. Avec retour à la réalité pour terminer, là, même si le terrain vague n'a pas de fin. Là, footing, en plein milieu des collines, dans l'avalanche de verre, les jointures nombreuses, le croisement des prés en pente qui partent de tous côtés et des enclos plats, du paysage de basse montagne et soudain du plateau de Bouzoul. Il faut monter, descendre, s'accorder, s'accrocher à cette épopée de ligne que mâchent si bien les vaches. Et c'est, courant aussi parmi elles, l'espoir d'un envol, la grande virgule verte. Je viens de vous lire « Des terrains vagues, variations » de Yann Miralles aux éditions Une, et on se le procure dans les meilleures librairies contre 15 euros. Et je vous souhaite un bon début d'année 2018, au cours de laquelle nous ne manquerons pas de nous retrouver.